Grand Dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour le Grand Dialogue du jour. Grand Dialogue du jour qui est consacré à la lutte contre le virus Ebola au Mali. Bilan et perspective. Terrible fléau, cette maladie à virus Ebola, si marquante et si déroutante, aura déboussolé et désemparé plus d'un Malien. En moins d'un mois, le virus Ebola aura mobilisé toutes les énergies du pays, autorités au plus haut sommet de l'État, partenaires techniques et financiers et la communauté internationale pour bouter l'intrus malveillant hors du territoire, qui est d'angoisse vécue par les Maliens et le pays à partir des deux foyers d'infection, d'abord à Kay, puis ensuite à Bamako, à la clinique Pasteur. C'est à partir de ces deux foyers que les autorités sanitaires vont prendre des mesures de grande envergure. Mise en quarantaine, mise en observation à un certain moment de plus de 500 personnes. Au total, à ce stade, la maladie a causé 5 décès. Une personne a été guérie et une autre est actuellement en traitement. Pour l'instant, le Mali enregistre un nouveau cas qui nous est parvenu hier. Et la quarantaine vient d'être levée pour la clinique Pasteur. Alors, pour débattre de la question, je suis dans ce studio avec M. Marc-Antier Dao, chargé à la communication du ministère de la Communication. M. Marc-Antier Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis avec Soulel Haïdara, pharmacien en chef de la clinique Pasteur. M. Soulel Haïdara, bonsoir.
Bonsoir.
Et M. Youssouf Kone, spécialiste du virus Ebola. M. Kone, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avec la toute question, nous allons partir avec la toute question. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, peut-on dire, affirmer avec certitude qu'il n'y a qu'un seul cas avéré de virus Ebola au Mali à ce jour? Monsieur le spécialiste, Dr Youssouf Kone.
Et bonsoir, Dr Kone Youssouf Karim, médecin généraliste. À ce jour, effectivement, il y a un seul cas de virus Ebola qui est en traitement en centre d'isolement.
Monsieur Marc-Antier Dao, chargé à la communication du ministère, vous confirmez?
Merci, je suis Marc-Antier Dao, chargé de la communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci pour cette question. Je confirme effectivement que nous avons un seul cas confirmé en traitement au centre de traitement de la maladie à virus Ebola qui est situé dans l'enceinte du centre d'appui à la lutte contre la maladie, le CENAM.
Ouais, alors, quel est son état aujourd'hui? Dans quel état il est aujourd'hui? État satisfaisant? Ça porte à espérer?
Oui, nous pouvons le dire que l'état de santé du malade est assez satisfaisant. Même puisqu'il s'agit d'un virus, comme vous l'avez vous-même dit, assez virulent, assez meurtrier. Donc nous sommes quand même confiants et le traitement est en train d'être administré dans ce sens pour sauver la vie du malade.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui c'est un ouf de soulagement à peu près.
Oui, au regard de la situation globale qui se présente dans notre pays, donc nous pouvons vraiment dire que nous avons un ouf de soulagement parce que la situation se stabilise véritablement.
Monsieur Soulel Haïdara, pharmacien à la clinique Pasteur, c'est aussi un ouf de soulagement pour vous?
Oui, je vais embaucher les pas. Je vais commencer à présenter mes condoléances aux familles des victimes d'Ebola. Et nous sommes vraiment attristés par la perte de ces êtres qui nous sont chers. Moi, je suis Dr Souel Moulay Haïdara et membre de l'équipe médicale de la Polyclinique Pasteur Bamako. Bon, je pourrais dire aussi qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en œuvre depuis le début, nous pourrons dire que vraiment Ebola est en train d'être vaincu dans notre pays.
Concrètement, comment ça s'est déroulé la quarantaine chez vous? À ce jour, combien de personnes ont été libérées?
Voilà, et la quarantaine avait commencé chez nous le 12 du mois passé, le 12-11 mois 2014. Ça a commencé avec 196 personnes venant de la clinique Pasteur, 25 hospitalisées, 7 accompagnants, 103 personnes de contact. Donc c'est ce qui s'élève à peu près à 186. Donc je note aussi que les 6 personnes étaient incluses dedans parce que c'était des gens qui étaient un peu en contact avec le vieux venant de la Guinée. Mais ceux-ci ont fini leur quarantaine le 18-11e mois.
2014. Maintenant, les 190 autres ont pu terminer quand même sans problème à travers leur sagesse et leur responsabilité qu'ils ont montré et finir leur quarantaine à minuit le 2 passé.
Marc Antier, chargé à la communication du ministère de la Santé, vous confirmez que toutes les personnes ont été libérées, sont retournées à la maison?
Excusez-moi, de façon globale, j'aimerais parler de cette situation. À la date d'aujourd'hui, nous avons à peu près 33 personnes qui ont bénéficié de la levée de suivi. Donc, il s'agissait des personnes mises en observation. Le nombre de personnes contact à la date d'aujourd'hui est de 25. Et de 28, disons, le suivi 3 n'ont pas été vus aujourd'hui. Donc, ce qui fait que le nombre de personnes vues à la date d'aujourd'hui est de 25. Donc, la situation se présente de cette façon. Et pour parler du taux de suivi, nous sommes à 92,59% de personnes en observation suivies à la date d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vous-même souligné, alors, quand on parle de la situation de façon globale, donc c'est à peu près 7 cas, effectivement 7 cas positifs, donc dont 6 liés aux patients guinéens et puis la petite fille détectée à Kai. Donc, à observer cette situation, nous pouvons vraiment dire que la situation se stabilise et que le suivi aussi est à ses nombres. Donc, nous confirmons effectivement qu'il y a eu beaucoup de vagues qui ont bénéficié de levées de suivi parce qu'il s'agit des personnes contact qui ont épuisé les 21 jours normaux requis pour, en tout cas, ce qu'on peut appeler la quarantaine. Donc, il y a beaucoup de vagues et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons que 28 personnes au total qui sont en observation.
Ils sont suivis,
oui,
régulièrement.
Absolument.
Alors, docteur Youssouf Kone, vous confirmez l'épidémie, ça se stabilise?
Pour le moment, effectivement, l'épidémie à virus Ebola vraiment est en train d'être maîtrisée au Mali. Vu les statistiques et tout ce qu'on est en train de vous dire, parce que la maladie se propage à travers une seule personne. Quand vous prenez le cas de la Guinée, c'est un jeune garçon qui a été en contact avec le virus, avec le truc, l'autre là, les chauves-souris. Et voilà, il a contaminé tout le pays, de famille en village, de village en ville, de ville en pays. Donc, quand vous voyez que nous, on a reçu 2 cas au Mali, et qu'à ce jour, il n'y a qu'un seul cas confirmé en traitement et les autres d'autres ont guéri et 5 cas de décès seulement, c'est que vraiment les autorités sont en train de mettre le paquet pour gérer le mal. Et en conclusion, on peut dire que le mal est en train de reculer et même à grands pas.
Alors concrètement aujourd'hui, comment les choses vont se passer pour la clinique Pasteur? Il n'y aura plus de contrôle? Qu'est-ce qui va se passer? La clinique Pasteur, elle sera soumise à certaines contraintes avant la rouverture officielle? Comment ça va se passer? Monsieur Marc Antiendao, conseiller à la communication du ministère.
Bon, je pense que la clinique Pasteur ne fait pas une exception à la grande règle qui a été fixée pour le contrôle, le suivi de cette situation. Donc, ça va être un peu dans un cadre global où partout où nous avons mis des gens sous observation, donc le cas de la clinique va en tout cas relever de cette situation. Donc, de façon exceptionnelle, je ne pense pas, en tout cas pas à ma connaissance, qu'il y ait une règle spécifique pour cela. Mais puisqu'il s'agit en tout cas des mesures de prévention, donc il faudra vraiment faire en sorte que, en tout cas après le passage du virus, qu'il n'y ait pas qu'aucun endroit, en tout cas, ne soit victime de stigmatisation, ne soit victime, en tout cas, de panique. Donc nous allons faire en sorte que et la clinique et les autres endroits, en tout cas, puissent bénéficier de la confiance dont ils jouissaient avant le virus.
Oui, mais n'empêche qu'il y a une faute quand même. Il y a la faute, ça se situe à quel niveau? Est-ce au niveau de la clinique Pasteur ou bien il y a eu moins de surveillance?
Bon, on a manqué quand même un peu à la déontologie quelque part.
Je crois que sans fuir le débat, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était hier devant les élus de la nation. Alors c'est pratiquement la même question qui est revenue et sa réponse était la suivante. En la matière, il ne s'agit pas d'une chasse à la sorcière. C'est vrai, la clinique Pasteur est une structure privée, mais en tout cas, son rôle dans le système de santé du Mali est vraiment connu, sa place est connue. Donc, une enquête a été ouverte par l'inspection de la santé. L'enquête est encore en cours, donc il est trop tôt de pouvoir situer les responsabilités. En tout cas, s'attarder aujourd'hui à le faire, c'est en tout cas aller trop vite en besogne. Et nous pensons vraiment que ce n'est pas le moment de parler, en tout cas de sanctions. C'est l'inspection qui nous le dira, si oui ou non, là où se trouve la défaillance et qui doit en tout cas répondre de cela. Mais parler de sanctions, pour l'instant, c'est un peu aller trop vite en besoin.
D'accord. Monsieur Soule Laïdera, pharmacien à la clinique Pasteur, est-ce que des dispositions sont en cours aujourd'hui pour une nouvelle façon de voir?
Oui, les dispositions sont en cours. Aujourd'hui, nous avons déjà fini de confectionner notre bureau de tri, qu'on appelle la salle de tri. Et la salle est carrément finie. Depuis le 2, ils ont commencé à le confectionner. Et maintenant, lorsqu'un malade viendra à la polyclinique Pasteur, il va passer dans cette salle-là. Ceux-là qui seront dans un tableau douteux vont devoir, on va devoir les évacuer au niveau du centre, car l'épidémie est un fait que le ministère de la Santé est en train vraiment de prendre en charge à bras le corps.
Donc, on va aller à la pause, après on reviendra.
Merci.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je rappelle aux auditeurs que le grand dialogue du jour est consacré à la lutte contre le virus Ebola au Mali, bilan et perspective. Alors pour en débattre, je suis dans ce studio en compagnie du docteur Youssouf Kone, spécialiste, et du docteur Soulel Moulay Aïdara, pharmacien en chef de la clinique Pasteur, et l'incontournable, le conseiller à la communication du ministère de la Santé, M. Marc-Antien Dao. Alors pour la deuxième partie de ce débat, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nos structures de santé à la base, les centres de santé communautaires, sont dotés aujourd'hui de moyens efficaces pour lutter contre le virus? Monsieur le spécialiste Youssouf Kone. Docteur Youssouf Kone.
Merci pour la question. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, les structures, les CESCOM, comme on peut dire, les centres de santé et communautaires de Bamako sont en train d'être formés en appui avec la direction nationale de la santé, la direction régionale de la santé, sont en train de former au minimum deux agents par CESCOM. Un DTC, un hygiéniste et un autre agent. Au minimum deux agents par CESCOM sont en train d'être formés. Hier juste, c'était la fin de cette formation par le maître du centre de santé de référence de la commune 5. Et aujourd'hui, ils ont commencé pour le CESREF de la commune 6.
Mais il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que la formation seulement.
Bon, la formation, ça commence par la formation d'abord des agents de santé. Parce que l'introduction d'un malade, c'est au niveau de base, et le niveau de base, c'est les CESCOM. Donc ça commence par là d'abord, et l'éventail va s'élargir.
Mm-hmm. Voilà. D'accord, je suis tenté de vous comprendre. Je me tourne vers le conseil à la communication. Monsieur Marc-Antien Dao, les centres de santé communautaires sont-ils dotés à moins efficaces aujourd'hui pour faire face à cette terrible fléau?
Merci pour cette question qui nous revient de façon récurrente. Je pense bien que le Mali, on est dans une dynamique, en tout cas, de renforcement des capacités depuis, la déclaration de l'épidémie aux portes de notre pays. Donc, c'est vous dire aujourd'hui que la formation qui concerne les structures hospitalières concerne également les structures de santé à la base. Donc, pour parler des CESCOM, des CCRF, alors nous sommes dans une dynamique de renforcer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le même dispositif, la même logistique qu'on espère avoir dans les centres de traitement, les centres spécialisés de traitement de la maladie à virus Ebola, ne peut pas se trouver textuellement dans les structures de santé à la base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui dans les structures de santé, les gens, en tout cas beaucoup de gens souhaiteraient avoir des prises en charge avec des combinaisons, des kits de protection individuelle. Et chaque fois qu'on parle d'un cas suspect, et voilà, il faut que les agents se mettent en tenue de protection, les tenues de cosmonautes pour intervenir. Je pense bien qu'il ne s'agit pas de cela pour le moment. Pour le moment, il y a en tout cas, de façon graduelle, nous sommes en train de mettre les équipements, et c'est qu'il y a déjà le cas déjà dans beaucoup de structures de santé communautaire. Donc, et nous sommes en train de poursuivre ces efforts-là pour éviter, en tout cas, qu'on ne tombe pas, en tout cas, dans une situation où on doit dire vraiment que les agents de santé des structures à la base, des structures communautaires, sont laissés pour compte. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, les équipements qui sont mis à leur disposition, en tout cas, leur permettent, dans la majorité des cas, de pouvoir intervenir sans risque.
D'accord. Ça veut dire qu'il y a la volonté, mais il y a du chemin à faire encore. Je me tourne du côté du docteur Suel Aïdara. Est-ce que là, vous êtes dans la même disposition mentale pour vous équiper, vous renforcer au niveau des structures privées pour faire face à cette terrible maladie?
Oui, parce que quand même les structures privées aujourd'hui sont vraiment considérables dans ce pays-là pour aider le ministère de la Santé, le ministère de tutelle à combattre cette maladie-là. Et ils ne sont pas mis à l'écart dans les formations par le ministère, à savoir les formations que l'OMS prodigue à travers le ministère de la Santé. On le convoque à chaque fois, à chaque mois, il y a deux agents ou deux responsables de la direction médicale qui est convoquée au niveau de l'OMS pour suivre des formations. Et nous sommes prêts à contribuer aussi.
Mais est-ce qu'au niveau des structures privées déjà, il y a une coordination, il y a une tentative de création d'une certaine coordination pour harmoniser les choses à votre niveau?
Bon, c'est-à-dire c'est systématique parce que nous sommes des agents de santé assermentés, parce que si un tel mal vient dans le pays, on n'a pas le choix. C'est-à-dire nous sommes là pour lutter contre la maladie et nous ne pourrons pas être à l'écart, parce que si nous partons déjà, qui va le faire à notre place? Mais je pense que les structures de santé privées sont vraiment conscientes de cela et je pense que à chacun à son niveau, à travers la coordination nationale sous le gide du ministère de la Santé, ils sont en train tous de se mettre à pas pour que le Mali puisse vraiment carrément endiguer cette épidémie.
Monsieur Markantiaudao, il y a une coordination au niveau des structures privées et étatiques aujourd'hui par rapport à la lutte contre le virus Ebola?
Oui, nous avons les structures privées comme partenaires. Tout comme nous avons l'ensemble des Maliens sur lesquels nous comptons pour mener à bout cette lutte. Cette question rejoint une idée souvent qui revient dans nos débats, c'est de savoir si les mêmes dispositifs qui existent dans nos structures hospitalières publiques existent dans les structures privées aussi. Donc nous pensons bien que le ministère agit en leader et cela est très normal. Donc il donne des orientations et ces orientations-là doivent être suivies par les structures publiques. Je crois que c'est ça qui se passe. Et ensuite, aujourd'hui, le ministre l'a dit hier, c'est en tout cas la question qui se pose aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le minimum d'équipement, en tout cas nécessaire, pour la prise en charge des cas suspects et pour éviter, pour la prévention même de cette maladie. Donc il y a des équipements qui sont nécessaires tant dans les structures publiques que dans les structures privées. Donc il s'agit maintenant d'inviter les structures privées de se doter de ces équipements. Je vais parler comme à titre d'exemple d'un thermoflash qui est aujourd'hui nécessaire dans la prévention de la maladie à virus Ebola.
Ok, et le pays vient de bénéficier d'un laboratoire mobile, un laboratoire mobile qui a été offert hier. Peut-être je vais me tourner vers le spécialiste. En quoi ce laboratoire peut être utile dans cette phase de lutte, là, docteur Youssouf Kone?
Ce laboratoire est très très utile pour nous en tant que techniciens dans la prise en charge de la maladie à virus Ebola, d'autant plus que ça raccourcit le délai de prise en charge. quand, c'est-à-dire le délai de prise en charge, quand par exemple au niveau communautaire vous avez un cas suspect, eh bien, c'est la frayeur partout. Les agents de santé sont équipés, ils ne peuvent pas rester équipés. On transporte le malade vers un centre d'isolement. Les parents sont inquiets, est-ce qu'il a le mal? Et les gens qui sont, ont été en contact avec le malade, le suspect en question, le cas probable ou le cas suspect, sont inquiets. Alors, il faut rapidement lever l'ambiguïté, faire le prélèvement. Et si ce laboratoire est là, il peut se déplacer. Par exemple, à Bamako, c'est très large. À Yirimadio, on a un cas suspect, on ne peut pas le déplacer partout. Il faut la commune 5 ou la commune 6 pour se déplacer, amener le malade dans un centre d'isolement. Cet équipement se déplace maintenant vers le malade.
Si vous me permettez, les différentes étapes de la prise en charge d'un cas suspect.
Les différentes étapes de la prise en charge d'un cas suspect. D'abord, il faut que, devant tout cas suspect, un cas suspect c'est quoi? C'est un cas qui est un malade supposé avoir les symptômes de la maladie. Une forte fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des nausées. Il peut avoir des hémorragies internes, des hémorragies extériorisées. Voilà. Un agent de santé qui voit un cas comme ça, classe ce cas d'emblée comme cas suspect. Ou quelqu'un qui a été en contact avec un malade confirmé d'Ebola est un cas suspect ou même un cas contact. Voilà. Donc, devant des cas comme ça, repérés par un agent de santé, obligatoirement, il faut faire des investigations.
Mais c'est-à-dire, si je vous comprends bien, disons, je n'arrive pas bien à vous saisir, est-ce à dire que tout malade qui vomit, qui a de la diarrhée, ça conduit directement à un cas suspect?
Dans ce contexte d'épidémie, ça rentre directement dans le cadre des cas suspects aujourd'hui au Mali. Même un cas de simple palu, quand ce n'est pas confirmé que c'est seulement le palu, c'est un cas suspect. Pathologies qui sont là avec la fièvre, des fièvres, des céphalées, des vomissements, des nausées, des diarrhées. Voilà. À forte raison des vomissements de sang. Quelle que soit la nature, ça doit être classé comme un cas suspect.
Donc, disons, et soyons dans le concret. Les types de pathologies qui conduisent au cas suspect aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a une idée claire aujourd'hui là-dessus?
Les types de pathologies, il y en a beaucoup. Mais chez nous, la première pathologie qui est similaire au virus Ebola, c'est le paludisme d'abord. C'est le paludisme et le taux de paludisme, on le sait dans le pays, c'est très élevé. La fièvre typhoïde, c'est la même chose. Les cas de méningite, c'est rare, mais c'est la même chose. Il y a plein de maladies qui font le diagnostic différentiel avec la fièvre Ebola. Mais c'est pourquoi vous voyez dans l'entrée des structures sanitaires, il y a les thermoflashes. Quand vous avez de la fièvre, c'est une alerte. Une fièvre à 40 degrés, 41 degrés et quelques, c'est une alerte. Alors on isole le malade et on cherche à confirmer que c'est un cas ou non. Et là, la question, on revient à la question maintenant. Ces dispositifs nouveaux que venant d'être le Mali vient de se doter,
le laboratoire mobile,
vraiment là, verra toute son importance là dans la prise en charge de ces cas suspects à Bamako.
Ok, Monsieur Markanche Dao, vous confirmez pour les cas de typologie là, puis l'utilité de ces laboratoires là pour le ministère de la Santé?
Oui, comme l'a dit Dr Koné, ces laboratoires sont d'une utilité avérée et ça permettra, comme il l'a si bien souligné aussi, de raccourcir le temps, le circuit du laboratoire. Aujourd'hui, nous avions un seul laboratoire capable de faire le diagnostic de la maladie à virus Ebola, qui est le laboratoire Sérofo installé dans l'enceinte de l'école de médecine. Aujourd'hui, lorsque nous...
Pour tout le pays,
pour pratiquement beaucoup de pays, parce que le Mali était, dans un passé très récent, était le seul pays de la sous-région, plus le Sénégal, de disposer en tout cas de ce laboratoire. Alors, avoir un second laboratoire, surtout mobile, dans le pays, nous permettra en tout cas d'être plus efficace, d'être plus prompt dans nos diagnostics, et aussi de limiter, en tout cas, une hémorragie financière, parce que vous savez bien que la prise en charge de la maladie à virus Ebola est assez coûteuse, mais la population ne peut pas sentir, parce que l'État s'est assumé, l'État a pris cette charge, raison pour laquelle la population ne va pas sentir. Mais au point de vue diligence, au point de vue facilité financière, ce laboratoire viendra nous enlever, en tout cas, une épine du pied. Parce qu'aujourd'hui, prendre un cas suspect à Kuchala ou à Gao pour l'amener à Bamako pour un prélèvement ou faire un prélèvement à Kuchala et l'amener ici. Il y a en tout cas le temps, comme le docteur Kone l'a dit, le temps que ça va faire en route pour arriver au laboratoire, aussi le laboratoire de Bamako, et aussi les risques que cela peut poser, peut avoir. Et il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc ce laboratoire va pouvoir coller à une hypothèse selon laquelle il faut rapprocher les structures de santé à la population. Voilà, donc vraiment ce laboratoire viendra nous enlever une épine du pied et vraiment il est le bienvenu. Je précise que c'est un laboratoire mobile au propre comme au sens figuré, en ce sens qu'il peut être transporté par voiture, transporté par hélico, transporté par avion, partout où il y a un foyer d'épidémie, où il y a peut-être quelques cas qui suscitent quand même de doutes, de suspicions. Donc le laboratoire peut être transporté pour être plus proche du foyer, plus proche des cas suspects, pour une prise en charge efficace et rapide.
D'accord. Docteur Soulel Moulay Aïdara, chef pharmacien de la clinique Pasteur, la typologie que vient de déclarer le docteur Youssouf Kone, c'est finalement, ça ne va pas produire l'effet contraire au niveau de la population par rapport aux tests, par rapport au virus Ebola. La typologie des maladies qui conduisent directement au cas suspect.
Non, bon, moi je pense réellement que les signes cardinaux qu'il vient de dire, c'est des signes prédominants et que vraiment c'est aux spécialistes de santé de pouvoir isoler tous les cas qui semblent être vraiment dans ce contexte-là pour qu'il puisse y avoir un prélèvement et confirmer ou bien affirmer que le test est positif ou non, avant de conduire aux autres investigations.
D'accord. Et la question qui me vient aux lèvres, c'est est-ce qu'on guérit du virus Ebola? Monsieur le docteur Youssouf Kone, est-ce qu'on guérit du virus Ebola?
Bien sûr que oui, monsieur, on guérit bien du virus Ebola. On guérit du virus Ebola, mais la guérison passe obligatoirement et rapidement par la détection rapide des cas.
Mais qu'est-ce qui explique cette panique générale? Aussi bien au niveau des autorités sanitaires qu'au niveau de la population. Qu'est-ce qui explique cette panique-là?
La panique au niveau
de la maladie.
Oui, c'est au niveau de tout le monde, c'était au niveau de tout le monde. Mais aujourd'hui, non, c'était la méconnaissance du mal. Même les grands spécialistes de la question n'avaient pas cerné le virus, la maladie à virus Ebola en son temps. C'est pourquoi c'est arrivé jusqu'de la Guinée. En Sierra Leone, Libéria, Nigeria. Il y a eu des décès même en Europe parce que c'est un peu méconnu, mais au fur et à mesure, on est en train de connaître ce que c'est que le virus. La méconnaissance amène la peur. La méconnaissance amène la peur. Les agents de santé sont en train d'être formés eux-mêmes. Voilà. D'accord. On dit agents de santé, on ne connaissait pas ce mal chez nous. Okay. Ça existe depuis 1976, mais ce n'était pas un mal de chez nous. Okay. C'est maintenant qu'on connaît ce que c'est que le virus Ebola. On a tout ce qu'il y a comme arsenal contre le virus Ebola, et notamment les mesures générales, lavage spécifique des mains, les solutions chlorées qui font ça. Voilà, ce n'était pas connu.
Vous connaissez le virus, mais vous n'avez pas jamais envisagé des mesures efficaces de lutte contre le virus. C'est ça.
Mais le virus est connu maintenant. Voilà, donc les mesures de lutte contre le virus sont en train d'être faites. Tous les jours, il y a le gouvernement, les partenaires sont en train de mettre le paquet pour toujours lutter contre le virus. C'est pourquoi on a parlé en début d'émission que le virus est en train de régresser. Pourquoi ça régresse? Parce qu'on est en train de lutter efficacement contre ce mal.
Ok, on va recevoir la pause, le temps d'y revenir.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Je rappelle aux auditeurs que le grand dialogue du jour est consacré à la lutte contre le virus Ebola au Mali, bilan et perspective. Je suis dans ce studio en compagnie du docteur Youssouf Kone, spécialiste, du docteur Souel Aïdara, pharmacien en chef de la clinique Pasteur, et le conseiller à la communication du ministère de la Santé, M. Marc-Antoine Ndao. Alors, pour la troisième partie de ce débat, alors, M. Marc-Antoine Ndao, concrètement, jusqu'ici, à combien tout ça a coûté à l'État malien, au ministère de la Santé, comme prise en charge, pour la prise en charge des cas suspects des malades?
Bon, il n'est pas, en tout cas, le coût financier pour la prise en charge de cette maladie n'est pas une priorité, une préoccupation pour nous. Parce que nous savons bien que tout ce qu'on aura mis pour faire barrière face à cette maladie est bien nécessaire. Raison pour laquelle aujourd'hui je n'aimerais vraiment pas m'attarder sur les détails financiers alors utilisés pour lutter contre cette maladie. Mais ce que je peux vraiment dire, c'est que nous avons fait des projections lorsque nous avons fait le plan de contingence, c'est-à-dire le plan de lutte contre cette maladie, qui avait été fait en deux scénarios, c'est-à-dire en deux phases. Selon la première phase, il s'agissait de mettre un plan pour lutter contre la maladie, pour prévenir la maladie, empêcher la maladie de s'introduire sur notre territoire. Et la seconde phase, le deuxième scénario, c'était on a un cas ou on a des cas, on va les traiter et on va éviter qu'il y ait une propagation à partir de ce cas. Donc voilà les deux scénarios. Lorsque nous les avons conçus, c'est un plan de contingence qui avait été chiffré aux environs de 1 milliard et quelques. Et aujourd'hui, lorsque nous avons connu deux foyers avec en tout cas des risques, nous avons exprimé nos besoins. Ça trouvait déjà que nous avions acquis une certaine expérience à partir des premiers cas suspects que nous avons pris en charge. Et en plus, à partir du premier cas confirmé que nous avons pris en charge à CAI. Donc nous avons à peu près un schéma du coût et nous avons exprimé alors ce besoin aux partenaires, transmis ce plan de contingence aux partenaires qui commencent à se manifester volontairement. Et à la date d'aujourd'hui, pour les 6 mois, nous avons à peu près un besoin d'un peu plus de 18 milliards, si je ne m'abuse, donc pour lutter contre cette maladie. Mais je rappelle aussi que le coût financier, comme je l'ai toujours dit, rien ne sera de trop pour, en tout cas, préserver la santé des Maliens, et surtout quand il s'agit d'un virus assez meurtrier, comme je l'ai souligné. Alors, il ne faut vraiment pas lésiner sur les moyens pour prévenir la santé des Maliens.
D'accord. Monsieur Dr Soulal Moulay Haïdara, vous avez une idée du coût à peu près que c'est que l'État a dépensé? Parce que vous êtes partenaire dans cette lutte-là, donc vous devrez être dans le secret.
Oui, bon, je n'ai pas une idée sur le coût, mais ce qu'il faut noter, la grande mobilisation des structures de l'État et le sérieux des agents qui ont mené ces tests-là. Chaque jour que je fais, ils sont là, du matin jusqu'au soir. Et la responsabilité des gens que je croise chaque jour à la Polyclinique Pasteur, qui viennent pour prendre leur température, la responsabilité pour que Ebola soit vraiment hors de nos frontières. Vraiment, il y avait beaucoup de sérieux, beaucoup de mobilisation et beaucoup de responsabilités. C'est ce qu'il faut noter.
Ok, Dr Youssouf Kone, spécialiste, est-ce que les campagnes de sensibilisation sont efficaces dans cette lutte-là? Est-ce que ça marche?
Je dirais que oui, les campagnes de sensibilisation sont efficaces parce qu'on a vu qu'automatiquement, lorsque le gouvernement a commencé à faire des sensibilisations sur la télé, le média, les gens ont automatiquement commencé à prendre des mesures de prévention. La première prévention chez nous, c'est d'abord les mesures d'hygiène simple. Se laver régulièrement les mains. Au minimum, une femme de ménage doit au minimum se laver la main au savon, les mains au savon, 4 fois par jour, au minimum, sinon plus. Quand vous quittez la toilette, vous vous lavez les mains. Quand vous quittez la ville, vous rentrez à la maison, vous vous lavez les mains. Quand vos enfants viennent de l'école, vous les lavez les mains. Et dans les pharmacies, dans les banques, ça n'a pas été exigé. On a seulement dit que la mesure efficace de lutte contre Ebola, c'est les mesures d'hygiène et salubrité simple.
Les mesures d'hygiène élémentaires.
Élémentaires. Et ça a été, la population a commencé à l'adopter immédiatement. Vous le remarquez, les centres de santé l'ont fait et tout. Les hôpitaux, partout où vous passez, vous voyez des solutions chlorées, le savon, l'eau. Sainement assis, vous devez vous laver les mains avant de faire ça, quoi que ce soit.
Ouais, mais on dit,
voilà.
Ouais,
ça, c'est la première campagne de sensibilisation d'abord. Voilà.
Mais on dit aussi que l'abus du gel, là, c'est néfaste aussi.
L'abus du gel est néfaste, je ne pourrais pas vous confirmer ça, mais les mesures de lavage simple au savon, c'est efficace. parce que pour faire une campagne, il faut que ça soit au moyen de la population. Le coût, on doit en tenir compte. Chacun n'a pas la possibilité de se doter de ces gels. Mais ce qu'on doit à nos mères, à nos enfants, à nos soeurs, à nos frères, c'est de se laver régulièrement les mains à l'eau propre et au savon, et de la bonne manière. Et maintenant, mieux, c'est d'avoir des solutions chlorées à 0,05% pour se laver les mains.
D'accord. Voilà. Et docteur Soulel Aïdara, est-ce que notre social, le social malien même, ne s'y prête pas à la contagion de cette maladie-là?
Non, je pense que déjà que le ministère de la Santé avec les autorités maliennes ont commencé vraiment les campagnes de sensibilisation. Les populations sont en train de comprendre comment est-ce qu'il faut s'y prendre avec le virus. Partout où on passe, il y a le dispositif de lavage des mains qui est là, l'assainissement qui est là. Bon, je pense que cette campagne de sensibilisation est en train vraiment de passer, que les Maliens sont en train de comprendre ensemble. Je pense que nous allons arriver à fin de ce virus-là.
Et M. Marc-Antoine, conseiller à la communication, le social malien ne favorise-t-il pas la propagation?
Bien sûr, bien sûr. Raison pour laquelle nos campagnes sont axées sur ce volet, le volet social. Quand vous prendrez notre plan de communication en matière de la lutte contre la maladie à virus Ebola, vous verrez bien que le volet communication mobilisation sociale, occupe en tout cas une place de choix dans ce plan de communication. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le social a une place de choix dans la propagation de la maladie, comme vous l'avez bien souligné. Parce que dans les pays où l'épidémie a fait vraiment des ravages, ces gens avaient du mal à comprendre que comment est-ce qu'on peut se débarrasser de certaines pratiques sociales, ancestrales même, au profit d'une campagne contre une maladie. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les funérailles traditionnellement faites dans les mesures traditionnelles, donc constituent des risques. Raison pour laquelle aujourd'hui le ministère insiste et rappelle que face à tout décès inexpliqué, il faudra laisser les agents de santé non seulement traiter la dépouille mortelle, traiter systématiquement la morgue et procéder à un enterrement sécurisé.
Sinon le domicile.
Voilà, le domicile tout, partout où le corps
a dû
passer, il faudra procéder à la pulvérisation de ces endroits et procéder à un enterrement sécurisé. Donc c'est ça qui permet de limiter les risques et je crois que la population malienne est en train de comprendre cela. Les leaders religieux, les leaders communautaires sont en train, en tout cas, d'œuvrer à nos côtés pour faire passer ce message. Et Dieu merci, là où nous sommes, nous n'avons pas connu la réticence qui a en tout cas bloqué le système sous d'autres horizons. Chez nous, tout se passe bien grâce à l'implication de l'ensemble des sensibilités sociales. Et nous sommes en train vraiment de gagner ce pari. Et c'est à leur honneur, c'est à l'honneur de nos autorités.
Est-ce que ce n'était pas plus judicieux de suivre l'exemple du maire de la commune 4 qui a interdit pendant quelques temps tout regroupement vraiment au niveau de sa commune? Est-ce qu'il ne fallait pas suivre l'exemple au niveau national?
Voilà, je pense que aujourd'hui, il faudra être au bon milieu de la situation. Il ne faut pas trop dramatiser la situation pour créer une panique qui ne vaut pas pour le moment la peine. Il ne faudra pas non plus, en tout cas, créer une situation de laxisme, de faire croire aux gens que la situation est sous contrôle. Donc, il faudra revenir aux pratiques antérieures. Donc, je pense bien qu'il faudra être au bon milieu, raison pour laquelle nous encourageons, en tout cas, des initiatives comme ça, mais nous évitons aussi que de telles choses ne créent aussi de la panique qui risque quand même d'être encore plus grave que même le virus en tant que tel.
Ok, docteur Youssouf Kone, concrètement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il n'y ait pas d'autres cas, sinon moins de cas?
Concrètement, il faut que la population soit d'abord disciplinée. D'abord, on est à une phase un peu avancée parce que les gens ont conscience du mal. On était à une phase où, dans les rues, on attendait que Ebola n'existe pas. Ebola, c'est le commérage des Blancs. Maintenant, les gens sont conscients que le mal existe. Il faut que les agents de santé, le gouvernement, tout le monde mette le paquet, les partenaires, pour appuyer les formations, les connaissances des gens sur le mal. Et on le dirait assez, les mesures simples d'hygiène, se donner les mains, c'est des pratiques qu'il faut abandonner, Ndao vient d'en parler, eh bien, aider toujours, quand un malade est reconnu et vivant avec le virus, prendre les mesures autour de ce malade, les cas contacts, les cas suspects, les cas probables, les isoler, les traiter, et c'est ce qui est en train de marcher au Mali aujourd'hui.
Et docteur Souleil Moulay Aïdara, la clinique Pasteur. Oui, concrètement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il n'y ait pas de cas, de nouveaux cas au Mali, sinon moins de cas du virus?
Oui, c'est de suivre le protocole de prévention contre le virus Ebola. C'est que ce que les autorités sont en train de faire déjà. Et je pense que nous, au niveau de la clinique, nous avons déjà passé par des séances de désinfection de tous nos locaux, les chambres, les blocs. Toute la structure a été désinfectée 3 à 4 fois sous le guide du ministère de la Santé et de l'OMS.
Et vous êtes plus vigilant maintenant.
Nous sommes très très vigilants et que la capacité aussi de réaction compte beaucoup. Parce que bon, la capacité de réaction du ministère de la Santé et des structures ont bien fonctionné pour vraiment limiter ce cas-là. Et je pense que le protocole de prévention que le ministère est en train de prodiguer et que les agents de santé qui sont en train de monter beaucoup de responsabilités dans cette lutte-là doivent être bien suivis et que je pense que nous arriverons à bout de ce virus, Inch'Allah.
Monsieur Marc-Antoine, conseiller à la communication du ministère de la Santé.
Vous devez me rappeler la question.
La question, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'il n'y ait pas de cas, de nouveaux cas, ou qu'il y ait moins de cas d'atteinte au virus Ebola?
Il faudrait, mes collègues l'ont souligné tout de suite, il faudrait rester vraiment vigilant le maximum possible. Préserver les acquis que nous avons présentement et faire savoir à la population que tant que la menace existe, tant que le virus existe dans nos pays voisins, nous devrons vraiment rester vigilants et nous devrons respecter à la lettre les consignes qui nous sont données par les agents de santé. Donc c'est à ce prix que nous pouvons non seulement faire barrière à la maladie, alors les cas que nous avons ici, les traiter, les personnes, le seul cas qui est là, Dieu merci, je l'ai souligné au début de cette émission, se porte bien et nous allons faire en sorte que chacun puisse quand même se doter, okay, en tout cas, de la leçon.
Ok, merci. Merci. Vigilance, c'est le maître mot pour dire aux auditeurs merci également. Le grand dialogue du jour consacré à la lutte contre le virus Ebola au Mali, bilan perspective, a pris fin. Et le débat avec dans ce studio, j'étais en compagnie du docteur Youssouf Kone, spécialiste, Marc-Antoine Ndao, conseiller à la communication du ministère de la Santé, et docteur Souel Moulay Aïdara, pharmacien en chef de la clinique Pasteur. Merci, à demain, portez-vous bien chez vous.